Chapitre 7. On ne vit pas en traînant un deuil interminable. Or, un soir, dans son humble maison, Pisistrate m'avait invité à un petit dîner sur le pouce. Il me présenta une jeune femme enceinte proche d'accoucher. « Mais tu m'avais caché, comment dirais-je que ta vie... »« Oui, eh bien voilà qui est fait. » Je l'appelle Melpo, en souvenir de cette Melpomène qui a tant inspiré Solon. Nous sommes connus ici. Elle a quelques ascendances macédoniennes, mais comme elle parle grec sans faute de grammaire, c'est pas une trahison. Et puis, mon cher Léoclès, la Macédoine m'intéresse, et je reste persuadé qu'un jour il faudra compter sur elle. Dans ce pays, il y a des gens de valeur, bons à savoir. Bon, pour moi, ce sont des barbares. Ces blancs rasés de près me font peur. Leurs yeux aussi, bleus que ceux des Perses. Mais voilà-t-il pas que M. Léoclès aura voyagé en Perse? Tu juges des gens la couleur des yeux ou des cheveux? Sais-tu que les Perses portent la barbe tressée? Les Athéniens ignorent ce luxe. En tout cas, les Macédoniens vivent sous un prince dont les idées n'ont rien de démocratique. Peu importe, à notre contact et à connaître nos sophistes, ils finiront par nous imiter. C'est leur intérêt dans l'avenir, et le nôtre. Bien, si tu le dis. Mais ta chère et tendre belle peau doit te charmer en dehors de l'oreiller. J'en suis fort heureux, et pour toi et pour elle. Et cet enfant, si c'est un garçon, nous l'appellerons Hipparque. En ton honneur, puisque tu aimes tant les chevaux, tu feras son éducation. Je le voudrais, cavalier. Une fille, oh, tu l'enseigneras comme un garçon, non comme ces belles lacédémoniennes qui galopent le long de Rotas. Melpo partit d'un grand éclat de rire. Au cours de ce dîner, tout de suite arrivèrent les problèmes relatifs à l'organisation de Hylékos. Pisistrate il exigeait l'action, les idées, des lois justes, des contraintes, une lutte permanente. Il fallait en outre creuser créer des écoles, éduquer les enfants à une morale héritée d'une Athènes jadis glorieuse, mais aussi les traditions. Il faudrait leur apprendre l'écriture, la lecture, les arts libéraux, le respect scrupuleux de la religion, tous les mystères fondateurs de la Grèce. Les jeunes devraient savoir ce qu'est la politique, le sens de l'union sacrée, bannir de leur esprit les mentalités partisanes qui rongent les sociétés, faire passer le juste avant l'argent, condamner les richesses non partagées, empêcher la pauvreté des uns au profit des autres, s'entraîner au contrat, au combat, vivre sans jalousie, sans haine, sans violence. Ainsi, les jeunes de Hylékos seraient fiers d'être né dans un pays gouverné par un grand Pisistrate, mais avoir aussi que Pisistrate n'était que l'un des leurs. Certes, il dirigeait, il orientait. On pouvait l'admirer, c'était tout. Il n'avait parmi eux aucun rôle sacré. Il ne serait jamais un archonte. Il ne serait pas magistrat, trésorier, juge, policier. Il serait Pisistrate, comme un autre pourrait s'appeler Anitos, Phidonis, Archestratos, Vérénice ou Philae. Les filles ont leur place autant que les garçons. Elles pourraient autant se lancer dans les arts, discuter de philosophie, écrire des poèmes comme Sappho ou Corinne. On leur offrirait des places de dirigeantes. Et la démocratie véritable enseigne l'égalité, la fraternité. Les familles poursuivraient cet enseignement à la maison. Chaque élève deviendrait enfin kalos kagatos, c'est-à-dire beau et bon, l'idéal de la société athénienne. Et Pisistrate s'arrangea pour faire venir des maîtres sûrs et compétents. On sait que les habitants de Raikelos avaient construit et armé un premier navire. Cette expérience serait complétée par la venue de charpentiers eubéens et l'établissement d'un arsenal. Construire encore, toujours, afin de posséder une flotte. La puissance d'une cité grecque est tournée vers la mer. La mer, c'est la liberté, le commerce, une richesse, afin d'élever des temples dédiés aux dieux protecteurs. La rencontre avec d'autres peuples intelligents et riches d'une longue expérience. La mer, c'est le voyage. S'exclama soudain Pisistrate sur un ton d'acteur, d'orateur rempli de son vol. Voyager, c'est voir. Écouter, observer ce qu'il y a de mieux chez autrui. Apprendre des langues, se cultiver. Retenir des leçons et choisir les meilleurs pour les appliquer. Car il y a de grands génies parmi ceux que, sans raison, nous appelons barbares. Voyager, mais c'est connaître la géographie, les techniques scientifiques, artistiques, commerciales. Comme le vieux Solon en Égypte, les jeunes iront s'inspirer des pensées étrangères qui avaient fait leurs preuves. En Égypte, justement, en Grèce, en Thrace, en Lydie, en Perse. La bonne pensée d'autrui nous fait devenir meilleurs et plus sages. Le voyage nous apprend la relativité des choses, cette Sophia qui nous permet de savoir afin de rejeter les pièges d'une imagination confiée aux quatre murs de la cité ou de la seule maison familiale. Savoir, le reste n'est rien. Dès le lendemain, Pisistrate se mit à prêcher partout. Et puis surtout, disait-il avec force, ce voyage sera l'occasion unique de se connaître soi-même, comme il est aussi inscrit sur le temple de Delphes, Glotis et Autonne. Car il faut entendre cette voix intérieure qui nous dicte autant qu'une morale seulement d'apprise par cœur, connaître nos limites, savoir les dominer, les mettre en œuvre au besoin, éviter la démesure que les dieux ne supportent pas. La mythologie en fait une peinture tragique, les héros coupables d'Ibris l'ont payé de leur vie, même leurs descendants. Et songeant sans cesse à revenir dans Athènes, Pisistrate voulait former une nouvelle génération de futurs dirigeants qui ne se prévaudraient pas de prétentions, encore moins d'un héritage de famille. L'Athènes à venir était son projet voulu, calculé, une ville où l'on viendrait admirer, étudier, travailler, pour le bien du monde entier, une ville où fleuriraient les plus grands esprits de la terre, où les artistes se sentiraient chez eux, une capitale universelle et reconnue. Les valeurs intellectuelles et l'urbanisme changeraient Athènes complètement. Les rues étranges, l'argile et places ornées de magnifiques statues, de fontaines à plusieurs becs, une acropole entièrement repensée, le vieux temple en bois d'Athéna remplacé par une œuvre en marbre à l'accès somptueux. Un rêve, non, une réalité. Oui, l'acropole devait être le lieu où Athéna serait maîtresse de toute la pensée, déesse de l'immortalité, de l'intelligence, sa vie du même coup. Et pour emblème, elle a l'olivier qui ne meurt pas, la chouette aux grands yeux étranges et beaux, en pleine nuit. Ils voient, ils savent. Athènes, capitale de la littérature, de la philosophie, des arts, de la paix. Pour en arriver là, Pisistrate et ses amis discutent, évaluent, mesurent, calculent. Quant à moi, je soumets à Pisistrate l'idée qu'il faudra une Athènes inspirée de l'Odyssée. Ce roman surprenant, où l'on baigne dans l'émerveillement du beau, du surprise, de l'amour fidèle, de la ruse au service de la vie. Tout jeune Athénien, lui dis-je, devra imiter Télémaque à la recherche de son père, à la droiture en chaque occasion, à la rencontre des grands hommes de son temps. Imiter Ulysse, l'homme qui sait, observe, exploite, se sauve des pires situations. Certes, Ulysse n'hésite pas devant une morale un peu floue, mais efficace, trompée quand sa dose chose est inévitable. Par exemple, avec Polyphème, tenté par les femmes, peut-être, l'essentiel est de triompher. Or, tout jeune Athénien se doit de vaincre, peu importe comment, s'il s'agit d'en tirer ce qu'il y a de plus exactement, de plus excellent, régner chez soi, et par les autres aussi, pour les autres citoyens. Et Pisistrate est enchanté de ce nouveau projet. Les jeunes Athéniens devront savoir Homère par cœur, et même au travers de l'Iliade, rêver d'être un Achille, superbe ami de Patrocle, suivre le sage Nestor, lutter comme le bouillant Ajax. Quel programme! Tant pis pour Agamemnon. Mais ces poèmes, ai-je ajouté, ne sont que récités ici ou là, colportés. Il faudra que nous les fassions mettre par écrit. Pisistrate enregistre. C'est dit. On verra en temps utile. Mais ces projets n'auraient d'autre leur succès que si l'on attaquait le problème de la reconquête d'Athènes. Une visite rapide en Eubée rassura Pisistrate. Une armée de quelques milliers d'hoplites était à l'entraînement fantassins et marins. La flotte en construction, de hautes trières solides, elle aurait à entrer dans le Pirée de nuit, à brûler tous les autres vaisseaux, comme dans l'affaire de Salamine et de Mégare. Et dans ce domaine, Pisistrate avait son expérience. Les gens de la côte seraient surpris et facilement vaincus. Ils employaient des esclaves, et ce genre d'ouvriers ne soutient pas des maîtres qui les épuisent, et pour cause. Ils s'enfuiront à l'arrivée d'une flotte agressive. Dès l'aube, apercevant une armada redoutable, ils courront en tous sens. La prise du Pirée sera un jeu d'enfant. On débarque, on poursuit, on monte vers Athènes, où les gens, encore ensommeillés, n'ont pas le temps de réagir. Pisistrate arrive, Pisistrate est là, panique générale, la tactique est payante. On arrête les archontes, les membres du conseil de 400, et on se place à tous les lieux stratégiques. Avec Pisistrate, le plan est décidé. Ne reste plus qu'à en fixer la date, dans le secret absolu. Que rien ne transpire, ni à Chalcis, ni à Erène. Il y aura bien quelques Athéniens venus en Eubée qui remarqueront l'agitation dans les deux ports. Mais s'ils posent des questions, on leur répondra qu'une nouvelle expédition de colons se prépare pour rejoindre la Sicile, l'Italie, les rassurer. Chapitre 9. Dans la banlieue d'Athènes, le bourg de Paiania n'avait rien d'exceptionnel. Y était née une marchande de fleurs du nom de Phéié. À l'est d'Athènes, elle habitait le quartier de Colytos. On la disait d'origine thrace. Pourtant, elle parlait fort bien l'ionien antique, arrivée très jeune en Grèce. Quand elle allait parmi l'Agora vendre son chargement de bouquets, le silence régnait sur son passage. À la voir très grande, cheveux tournés en un superbe chignon d'un blond solaire, ma tête a souvent tourné. Un orbe de divinité, un déhanchement sublime des yeux d'un bleu à faire tomber en pâmoison. Nombreux sculpteurs lui avaient offert des sommes considérables pour l'inviter à poser nue ou vêtue d'un péplos mouillé. Elle avait toujours refusé, par orgueil, par simple pudeur. Elle troublait les plus blasés. Un vieil archonte faillit choir en syncope, voire au-delà. On ignorait son âge, qui ne devait guère dépasser 20 ou 25 ans. Gentille, polie, sourire éclatant, elle ne rentrait jamais avec un seul de ses bouquets. Honorée d'un compliment chacun de ses ans clients. Autant dire qu'elle avait des amoureux impossibles à compter, devenus beaux ténébreux. Une seule fois, Pisistrate lui avait acheté un bouquet pour sa vieille mère. De retour à Athènes, Mégaclès dit à sa fille que Pisistrate acceptait de l'épouser. Elle devait cependant accueillir ses fils Hipparque et le tout dernier Hippias, des gamins beaux, apparemment sages et en bonne santé. Mariée à Pisistrate, ce serait pour elle la fortune, la joie d'avoir pour mari un grand stratège déjà célèbre, un avenir assuré. Le Conoé sauta au cou de son père. La femme de Mégaclès exprima quelques doutes, fit remarquer que 25 ans de différence n'offraient aucune garantie, et de son côté, Lycurgos, mis au courant, le montra lui aussi très réticent. Il ne voyait pas d'intérêt de cette alliance, sinon une sorte de revirement fâcheux. Que signifiait ce calcul dont Mégaclès ne l'avait pas prévenu avant d'aller convaincre Pisistrate de revenir? Leurs partisans comprendraient ces histoires étranges comme une trahison. Que Pisistrate rentre à Athènes, d'accord. Le programme était entendu entre eux. Mais ce mariage paraissait inacceptable en cette occasion. Mégalès visait un pouvoir total, en double, avec Pisistrate, selon les apparences. Erreur, répliqua Mégaclès. Ma fille est amoureuse de lui, je n'y peux rien. De toute manière, ce mariage n'engage ni moi ni toi. C'est un détail. Tu sais que la famille de Pisistrate et la mienne ont quelques ancêtres communs. Il ne s'agit donc ni d'une mésalliance, ni à t'entendre d'un très sombre projet. En cas de gros problème, la séparation de ces époux serait exigée par les dieux. Non, ton enthousiasme ne me convainc pas. J'insiste. Au préalable, nous devons publier cette nouvelle et observer les réactions de nos partisans. Nous sommes les chefs, oui. C'est pas une raison pour leur imposer des choix familiaux. La politique passe avant tout. Nous avions chassé l'homme. Maintenant, un mariage. Oh, soyons sérieux, s'il te plaît. Et même les gens des montagnes donneront-ils leur avis pour cette alliance? Leur chef lié au parti opposé. Ridicule. Il y a mieux, enchaîna Mégaclès. Mon intention la plus extraordinaire est de faire rentrer Pisistrate accompagné d'Athéna comme garantie miraculeuse. Oh, cette fois, ami, tu commences à m'inquiéter. Tu déraisonnes. Pas du tout. Tu connais Phyé. Oui, comme tout le monde. Je vois pas. Moi, si. Je vais t'expliquer comment, le comment du pourquoi. Apprenant que Phryé habitait le quartier de Colytos, Mégalès voulut la rencontrer. Il commença par lui faire miroiter une grosse somme d'argent. Voilà quelque chose de suspect, répondit la jeune femme. Bon, comprenons-nous bien, dit Méraclès. Il ne s'agit en rien de te contraindre à une liaison scabreuse avec moi ou un autre. Je ne demande ni de poser pour un artiste, ni de te prostituer. Mais alors pourquoi cet argent? Mais tu devrais te déguiser en Athéna. En Athéna? Mais c'est une histoire de fou. Oui. Mais l'Athéna va me foudroyer. Bon, elle est loin, sur l'Acropole. Tu n'auras pas à y monter. Si tu es d'accord avec moi, tu n'auras pas à le regretter. Juste un rôle à jouer. On m'a dit que tu aimes aller au théâtre. Non? Eh bien, bonne occasion pour toi d'incarner un personnage. Tu n'auras pas de texte à réciter, seulement paraître. Tu porteras le masque d'Athéna qu'on aura préparé à ta taille. On ne te reconnaîtra pas. Tu vois, aucun effort de ta part. Mais quand même, si Athéna se venge d'avoir été parodiée? Certainement pas, elle a d'autres soucis. Ce genre de jeu me fait peur. Mais tu es pieuse, tu as raison. Mais dans mon affaire, aucun péché. Oui, c'est un jeu. Athéna est assez intelligente pour en rire, puisqu'elle présente à toutes nos distractions, aux fêtes, aux processions, en son honneur. Si tu le dis, eh bien, je suis prête. Nous ferons ensemble les prières qu'il faudra lui adresser, sinon je refuse cette pitrerie. Tu es bizarre. Pas bizarre, efficace. Tu seras rassuré, car nous ferons à notre grande protectrice les prières que tu voudras. Ne t'en inquiète pas, tu as ma parole. Rendez-vous serait pris au Pirée. Pirée serait prévenu, porterait un simple péplos propre et neuf. Et Mégaclès viendrait à la suite. On se séparera. Aussitôt, Mégaclès envoya un ami à Rochéos inviter Pisistrate à s'embarquer pour le Pirée sans lui révéler le programme. On avait besoin de lui d'urgence. La proposition venant de Mégaclès, il penserait au mariage, promis, ou quelques difficultés politiques nouvelles dans la sarcacité de stratège donnerait une réponse adéquate. Après l'entretien qu'ils avaient eu tous deux, Pisistrate ne mettrait pas en doute la parole de Mégaclès. Il y avait calcul, certes. Cependant, une trahison était peu probable, d'autant que le terme d'urgence était employé. Pisistrate promit sa venue dans les meilleurs délais. Lui et moi, nous arrivâmes sur une outrière toute brillante aux couleurs vives. Les marins jetèrent assez de cordes pour arrimer le bâtiment. Mégaclès était là. Tous deux se serrèrent dans les bras. Moi, je souriais à voir cette pantomime. « Alors, dit Pisistrate, encore de la pagaille dans la ville. Sur moi seul, mes ennemis peuvent compter. » Afin de calmer ta faute. Alors, oui, je te l'ai déjà dit, j'avais besoin de toi. Et Lycourgos est d'accord. Tu vas passer la première nuit au Pirée. Et demain matin, ce sera à toi d'agir, avec le secours de notre bonne Athéna Promachos. Elle t'attend autant que moi. Ton grand ami, Lygdamis, est aussi arrivé de Naxos. Il aimera ton triomphe. Et quel triomphe ! Bah, tu en jugeras par toi-même. Un triomphe, je ne viens pas de gagner une guerre. Ne me pose pas de questions, repose-toi. Ton voyage t'a fatigué. Pisistrate me regarda longtemps, sans trop savoir quel complot se tramait. Je lui dis d'attendre et qu'on verrait bien. Nous n'étions pas seuls. En cas de coup dur, nos marins interviendraient. Le lendemain matin, Mégaclès et Lycourgos emmenèrent Pisistrate dans un hangar du port. Lygdamis y donnait la dernière main à un char rutilant de dorure. Les hoplites arrivèrent. Deux chevaux blancs, magnifiquement bouchonnés et sanglés, queues dressées, et Pisistrate embrassa Lygdamis. « Quel bonheur de te revoir! Mais pourquoi es-tu venu? Par simple amitié fidèle, comme futur témoin de mon mariage? Bien, disons les deux. Et puis regarde ce char construit pour toi. Vois ce casque, ce bouclier à gorgone, cette peau de chèvre, superbe égide, cette lance. Oh mon vieux, tu vas accompagner une Athéna en personne. Et puis ce masque, regarde ce masque, mais on s'y croirait. « Bon, d'accord, dit Pisistrate. En tout cas, je ne comprends rien à cette comédie. Dites-moi donc, Mégaclès, Lycargos, c'est du théâtre ou de la politique? Je sens un piège là-dessous. Votre démonstration est obscure. Vos calculs me déplaisent. Partout où je vais, reprendre ce pas. « Mais calme-toi, dit Mégaclès. Si calcul il y a, il est dans ton intérêt. Oh, ah, oh, par Zeus, je vous vois venir avec vos simagrées, accompagnés de quelques hoplites. Phileas entra soudain dans le hangar. Le silence naquit devant la beauté d'une nouvelle Corée haut de gamme. Tous en étaient comme paralysés. S'approchant de Mégaclès, Il m'avait demandé, je crois, d'y fuyer. Oh, décidément, je ne comprendrai jamais, dit Pisistrate à Méaclès. Mais rien à comprendre. Tu as une belle Athéna près de toi. Elle va te conduire dans Athènes. Nous suivrons. Rappelle-toi que l'apparence crée la vérité. Nos premiers philosophes l'amèneront au coin des rues. Allons, messieurs, déguisez la demoiselle, de préférence présente. Avant qu'elle monte sur le char, passez-lui l'égide. Maintenant le casque. Le casque, oui, bouclier au bras gauche. Elle monte sur le char et prend la lance à main droite. Parfait. Pisistrate, tu montes à son côté. Gauche. Bien. Tout le monde est prêt? Lygdamis tenait les rênes du cheval de gauche. On sortit du hangar en direction du port. Enfin, on ouvrit la route en direction d'Athènes. Dans la traversée du Pirée, les gens qui apercevaient le char avec Athéna dans sa majesté se précipitaient à genoux pour adorer la déesse, bras levés vers elle. Phryée ne bougeait pas. Droite, comme fière de sa puissance, pleine de bonté pour ses adorateurs, heureuse, quoique le cœur battant. Elle cachait l'inquiétude naturelle d'être prise pour la fausse Athéna. Et la déesse prenait mal ce jeu très risqué. Elle trompait le peuple, redoutait d'être reconnue. Peut-être serait-elle lapidée. Et de distance en distance, Pisistrate avait beau lui chuchoter que tout irait bien jusqu'à l'agora. Elle ressentait des palpitations irrépressibles. Oui, mais une fois sur l'agora, qu'allait-il se passer? D'autant que sur leur passage, des gamins irrespectueux se mettaient parfois à rire. Lentement, on traversa le quartier Coïlée. On longea le quartier Colitas, où Phryée se sentit encore plus émue, son quartier. Et sur la gauche, les pentes de la Pnyx, à droite, la colline redoutable des Aréopages. Et toujours, des Athéniens tombant à genoux, effrayés par la présence vivante de la déesse au milieu d'eux. Une foule suivait le char sans trop approcher. Voici la rue qui mène à l'agora. Du bruit, des conversations, de l'agitation des enfants qui marchent près du char. S'amusent, des groupes s'écartent, visages bés, yeux exorbités, ne sachant si une vérité leur échappe. Est-ce vraiment Athéna? Un mirage? Un rêve? Va-t-elle parler? Et si oui, que va-t-elle annoncer? On entre sur l'agora. Prévenus, les neuf archontes approchent. Le char s'arrête. Tout le monde reconnaît Pisistrate. On croit le reconnaître. Si cette vision ne relève pas de la pure imagerie, et Pisistrate invite Athéna à descendre du char, la précède vers le Boulotérion. Des hoplites empêchent la foule de s'y engouffrer, sauf les bourreautes qui se ruent à leur place. Et Athéna monte sur l'estrade, à côté d'elle Lygdamis, devant elle Pisistrate, qui va s'adresser à la boulet. Brouhaha général! Et soudain, Athéna se penche vers Lygdamis. Tous deux descendent de l'estrade vers une porte, petite porte. Et pourquoi s'en va-t-elle? Crie Lysistrate. Oh, une urgence, répond Lygdamis, qui disparaît avec Athéna. Pisistrate saisit l'occasion. Vous excuserez notre déesse sublime. Chaque femme a ses impératifs. À satisfaire est une nécessité. Mais va-t-elle revenir? S'exclament quelques goulottes. Peut-être, rétorqua Pisistrate. Mais notre urgence à nous exige que nous examinions sans tarder les problèmes de notre société. Athéna présente ne devrait être aucune réponse immédiate à nos difficultés. Or, nous devons les résoudre. Aujourd'hui, dès aujourd'hui, vous le savez tous, et si Athéna m'a conduit vers vous, ce doit être pour l'instant, parce qu'elle ne se fait confiance qu'à moi. Trop de désordre règne dans cette ville, où les lois de Solon sont encore lettres mortes. Vos chefs de parti m'avaient chassé, mis au vu de vos corps d'ordonnances incessantes. Ils sont allés me rechercher jusqu'à Raikios, sous l'inspiration d'Athéna. J'ai à vous parler, à vous faire prendre conscience que cette situation ne doit pas durer. Travaillons ensemble. Jadis, après la victoire comme Mégare, nous l'avons déjà fait. Il est temps d'être sérieux. Oui, travaillons. Courage. Chapitre 10. Sous la présidence des archontes, la boulet accorda des pouvoirs temporaires à Pisistrate à la condition de soumettre ses nouvelles décisions à un vote et de demander la vie éclairée d'Athéna selon la coutume des ancêtres. Malgré quelques conversations éparses, un silence relatif se fit dans la boulet quand Pisistrate fit cette déclaration. Athénien, j'ai accepté de reprendre ma vie auprès de vous. La première décision que je vous propose est la création d'écoles pour notre jeunesse. En effet, nous n'avons que des palestres où s'entraînent les éphèbes. Ils y vont seulement à partir de 15 ou 16 ans, mais avant. Trop de gamins errent dans les rues, des chômeurs, des handicapés, sans la moindre activité. Parmi nous, seule une minorité sait lire, connaît les lois, a la capacité d'échanger non seulement ici mais à l'étranger. Qui parle le perse ou l'égyptien, le phénicien, le scythe? Oui, personne. Nos écoles nouvelles seront chargés de cet enseignement indispensable pour voyager, commercer. Voilà un programme que nous ne pouvons plus négliger. On tire au sort les futurs magistrats, mais combien sont aptes à l'exercice de la justice, de l'urbanisme, de la vie économique, de la gestion d'une famille? Combien? 1%, peut-être. Vous le savez, mais ne faites rien pour que ça change. Or, nous voilà une première tâche que je considère capitale. Si Athéna possède le don suprême de l'intelligence, elle le répandra dans nos écoles. Athéna ne sera plus une solitaire, réfugiée sous son acropole. Chaque jour, elle sera parmi nous. Nos jeunes doivent acquérir très tôt la philosophie, l'architecture, la menuiserie, l'histoire, la connaissance de la terre, de la mer, de l'univers. Athènes se doit de créer, d'inventer, de résoudre. Combien d'entre vous, ici, dans cette assemblée, savent à fond ce que je viens de vous dire? 1 sur 10. Avec nos dissensions permanentes, nous perdons un temps considérable. Nous sommes entourés de peuples versé dans toutes les connaissances. Et nous, nous passons jour et nuit à discutailler, à jacasser. Même les lacédémoniens en sauront bientôt plus que vous. Les mégariens reconstruisent leur flotte. Notre Pirée reste sans accueillir des commerçants du monde entier. Nos rues sont sales, nos temples délabrés, nos élevages sans production notable. Serions-nous citoyens de la cité grecque la plus faible? Mon intention, faire d'Athènes la mère que la civilisation. Sinon, honte à nous! Les bouleutes gardaient un silence pesant. Soudain, une ovation accueillit les propos vigoureux de Pisistrate. Il était vrai que les jeunes n'apprenaient que chez les artisans, quand ces artisans acceptaient des apprentis. Or, les écoles devaient former dès le prime enfance. Le vote fut unanime, à main levée. Cette première réforme emporta la session, l'adhésion. On décida de consacrer des sommes importantes à la construction d'écoles avec obligation pour les parents d'y envoyer leurs enfants. Non seulement dans Athènes, mais dans toute l'Attique, tous les dèmes créés par Solon. Les citoyens, ayant des notions de base, y dispenseraient au moins ce qu'ils savaient. Et pour commencer, la lecture, la récitation, l'écriture, la gravure sur pierre, l'arithmétique. Pourtant, la chose ne fut pas simple. Bien des parents survivaient parce que leurs enfants travaillaient ici ou là. On manifesta des résistances. Sur le plan, il fallait que l'État prît en charge cette contrainte. La boulet accepta. Les trésoriers et Lienemann levèrent les bras au ciel. Il faudrait créer des impôts. Tant pis, assura Pisistrate. Nous trouvons bien comment nous y prendre. L'avenir de notre ville en dépend. Le commerce y pourvoira. C'est alors que se développa la poterie décorative à la louange des Jeux Olympiques, pour l'usage quotidien, pour le plaisir. On vit apparaître en masse vases et aiguillères, portant figure noire sur fond beige, avec scène de la vie courante, athlètes, chevaux et phèbes prenant leur douche, passant leur corps à la strigile. Au Pirée, ces potiers étalaient leurs œuvres à vendre et le succès se répandait. Des Grecs venaient de partout pour en acheter. Les sculpteurs se mirent au travail. Les destructions de vieilles maisons prirent de l'ampleur. Il fallait repenser l'urbanisme. Le travail ne manqua plus. L'argent circula. Les campagnards trouvèrent des emplois en ville. Pisistrate était présent dans les chantiers, encourageait, donnait parfois la main, orientait les architectes, conseillait, soignait les blessés. Un souci vint alors, le manque d'eau. On allait la chercher au bas du mont Hymette, dans les quelques sources d'un pays chichant ce domaine. Pisistrate consulta. Des puisatiers, venus de Thessalie, eurent l'idée de faire une conduite souterraine qui amènerait l'eau jusqu'au centre d'Athènes. Mieux, sur l'Agora, alors circula, on calcula les pentes, on creusa, on cimenta. L'eau devait couler nuit et jour. La ville fut bouleversée par le tracé des conduites. Mais en quelques mois apparut la fontaine bientôt célèbre, Ennacrounos, 9 becs à fort débit, autour de jets Que de muses! Cette fontaine merveilleuse attira tant de monde qu'elle en devint un lieu de rassemblement, de conversation, de jeu, de rencontre d'amoureux. On y va de toute la ville, occasion de mieux se connaître, de parler politique, philosophie, de réciter des poèmes, de chanter. L'agora en devint la place publique, futur modèle pour les autres cités, gloire d'Athènes, de la vraie démocratie naissante. On y buvait l'eau fraîche et les idées qu'on y en découle. Pour les gens les plus humbles, Pisistrate était le génie, faisant renaître le paradis perdu depuis le temps heureux de Cronos. Il va de soi que les succès de ces hommes hors du commun firent par exciter des jalousies féroces. On causa aussi sur la responsabilité de Mégaclès, lequel préparait le mariage de sa fille avec Pisistrate. Un temps, il s'efforça de calmer les esprits et de détourner divers agacements de ses adversaires. La noce fut grandiose. Sur l'agora, je revois Pisistrate soulever le Conoé dans ses bras au milieu des applaudissements. Hippias et Hipparque, les deux jeunes fils de Pisistrate, alors orphelins de mère, assistaient à la cérémonie et dirent à le Conoé combien ils étaient heureux d'avoir enfin une nouvelle mère à laquelle ils pourraient confier leurs petits secrets. Le peuple d'Athènes accompagna les époux au haut de l'Acropole pour un sacrifice à Athéna Promachos. Son égide bénirait le couple. Elle étendrait sur lui son bouclier, preuve de force et de la vie éternelle. Malgré quelques doutes sur la vraie Athéna, naguère compagne de Pisistrate, c'était bien elle, disais-je un peu partout, qui avait reconduit Pisistrate à Athènes. Un immense repas public se déroula ensuite sur l'agora et dura tard dans la nuit avec musique, danse, récitation de poèmes par les Aèdes, présents Simonide de Céos et son neveu Bacchylide, déclamèrent leurs odes triomphales. Le jour d'après, nombreux spectacles furent donnés dans le théâtre de Dionysos. Mais tout peuple est hélas versatile. Un homme politique devient suspect à beaucoup, même s'il fait des cadeaux. Le peuple d'Athènes est l'exemple de ces changements d'opinion. Un jour oui, non le lendemain, sans motifs apparents. Malgré les résultats spectaculaires des idées de Pisistrate, les gens de la plaine et ceux de la côte s'estimaient frustrés. Tout n'allait pas aussi vite qu'attendu. On n'avait pas construit assez de bateaux, pas assez de chantiers sur le Pirée, des marins peu payés, des lois de Solon trop sévères. La liberté, oui, mais à quel prix? Il y avait encore de l'agitation dans certains dèmes de la campagne reculés où on préserve les vieilles traditions. Pisistrate s'y était rendu afin d'expliquer, de rassurer, d'organiser fêtes, semailles, récoltes. L'Athénien moyen était une forte tête. On lui reprocha des impôts, des taxes, car pour les travaux dans Athènes, une dîme était prélevée sur les produits de la terre, de même qu'en ville et au Pirée, sur les bénéfices des artisans et commerçants.